La postmodernité. C'est une bête, ça. Une bête grise, aux limites physiques encore méconnues. Et malgré sa mystérieuse apparence, cette petite bête a été beaucoup trop abusée. Rares sont les terminologies, tout domaine confondu, ayant connu une aussi large expansion. Une expansion que nous peinons, 50 ans après les premiers balbutiements lancés par Baudrillard, Jameson et Lyotard, à définir unilatéralement. Les confusions et nuances autour du terme sont si nombreuses qu'il est difficile d'en discuter simplement. Toujours est-il que nous sommes coincés avec ce mot et tous les écrits qui l'accompagnent. Par chance, la bête laisse des traces, des empreintes récurrentes, qui nous permettent de la traquer. Il s'agit de thèmes, de mouvements et de principes qui, par leur accumulation et leur superposition, en viennent à être connotés comme un ensemble de chaînes dites postmodernes. Parmi les plus fréquents se trouve la fragmentation, la combinaison de plusieurs styles, bon, à travers les styles modernes notamment, la réflexivité, l'autoréférentialité, l'intertextualité, la métafiction, l'ironie, le regroupement de la haute culture et de la culture populaire. Mais, avant de débattre et d'émettre des propositions quant à l'héritage postmoderne qui changeront pour sûr l'avenir entier de la culture américaine, il me semble nécessaire d'établir un bref survol socio-historique de la bête en question. Je vais tenter, du mieux que je peux, de recentrer mon intervention autour de la littérature américaine, mais étant donné l'ampleur plurisectorielle du sujet, je me permets d'ouvrir plusieurs voies. L'avant-garde du mouvement, rendant ceci à la postmodernité, date de l'après-Deuxième Guerre mondiale. En fait, comme Luc Ferry le mentionne dans Heidegger et les modernes, c'est au moment où les idées de l'avant-garde européenne et américaine deviennent partie intégrante d'une culture de masse que la condition postmoderne dont Lyotard parle commence. Ce n'est donc au tournant des années 60, avec la démocratisation des technologies de la communication, qu'apparaissent les premières théories qui se veulent fondamentalement une critique de la société du spectacle. Ainsi, cette critique embryonnaire de la culture et des médias de masse forme l'enjeu des premiers cultural studies issus pour la plupart des théories marxistes et situationnistes. Cette école de pensée, née en Grande-Bretagne, largement discutée en France, s'échoue rapidement sur les rives états-uniennes, où elle subsiste encore massivement. Mais, déjà à l'époque, un important fossé paradoxal est établi. On différencie la postmodernité du postmodernisme. La première est une condition générale sociale, et la seconde, une idéologie esthétique et culturelle. La littérature étant à cheval entre l'art et la critique sociale, nous ne pouvons faire autrement qu'entrecroiser ici ces deux distinctions. Au mot de Linda Hutcheon, le médium qui fait constamment référence aux théories postmodernes est la télévision. Ainsi, pour Baudrillard aussi, la télévision est la forme paradigmatique de la signification postmoderne parce que la transparence de ces signes offre un accès direct à une réalité signifiée. J'ai déjà mal à la tête. Grosso modo, c'est ça qu'il nomme le simulacre. Nous en reviendrons. Comme Hutcheon le souligne, Baudrillard a beaucoup été attaqué concernant cette théorie du réel, accusé d'idéalisme métaphysique et de nihilisme apocalyptique, teintant sa théorie des simulacres d'une forme de nostalgie de l'avant-média de masse. Une critique qui rejoint celle émise à l'insu de Jameson et Lyotard. En fait, tous les pères de la postmodernité sont faits traquer par leur propre bête, c'est l'histoire du chasseur chassé. Mais, en ce qui a trait à la littérature dite postmoderne, des auteurs américains attachés à ce premier mouvement, qui n'en est pas un, mouvement en guillemets, comprendrez, sont divers et variés. Leurs enjeux sont multiples, mais se concentrent surtout autour de deux visions fondamentales, l'une plus apocalyptique, comme Jameson le stipulait, et l'autre plus célébrative, comme McRobby va le stipuler beaucoup plus tard. Pour en nommer que quelques-uns, nous retrouvons notamment William Gaddis, Vladimir Nabokov, John Bartis, William Burroughs, Thomas Pynchon, Brodigan, etc., nombre d'entre eux ayant été des piliers du mouvement de la Beat Generation, que peut-être dans la discussion on aura le temps de toucher un peu. Cette brochette laisse place à une deuxième vague entre les années 70 et 90 qui explorera davantage l'impact des médias sur la société, la complexité narrative et bien d'autres enjeux préalablement mentionnés. Aussi, cette nouvelle génération entretient une importante méta-discussion avec les auteurs et théoriciens qui les précèdent, ainsi qu'avec la culture populaire de plus en plus obsédée par le divertissement. Ronald Reagan et Ronald McDonald International Corporation arrivent à travers tout cela, et c'est l'apocalypse médiatique. La guerre froide devient un bruit de fond, un white noise, mais la télévision prend de plus en plus de place au sein de la famille, de moins en moins nucléaire. Et ce sont donc des auteurs comme John Irving, Paul Auster, Don DeLillo et Bret Easton Ellis, etc., qui questionnent, montrent et mettent en fiction les nœuds psychosociologiques du rêve américain, alors largement définis par le consumérisme. Vraiment. Enfin, arrive le cœur de ce débat, ce que certains nomment le post-post-modernisme ou les post-post-modernes ou encore la méta-méta-fiction, etc., dont les enjeux esthétiques et thématiques gravitraient autour d'une intertextualité encore plus complexe de référence à la science pure et une ironie, pour le moins qu'on puisse dire, radicale. Vous l'avez deviné, la bête s'est perdue avec les chasseurs. Des écrivains comme David Foster Wallace, William Wolman ou Jonathan Franzen seraient l'incarnation du néo-néo-néo-post-post-post-modernité. Et j'attends impatiemment le prochain écrivain américain qui méta-théorisera ces écrivains-là. Peut-être que ça sera un ou trois, je le souhaite pas. Mais pour l'instant, nous pouvons, surtout moi, hein, qui sent vraiment ses devants, mais nous pouvons remarquer que la bête s'est frappée violemment contre un arbre. Car ces mêmes écrivains, qui nous sont contemporains, questionnent de plus en plus la validité de la notion de postmodernité, du moins en tant que mouvement littéraire. Ainsi, comme Foster Wallace l'exprime dans E omnibus pluram, vous en avez déjà parlé, mais ce que le petit écran a fait de mieux ces cinq dernières années, milieu des années 86, brassait plus d'autoréférentialité ironique que n'aurait pu en rêver aucune des formes précédentes d'art postmoderne. Voilà un des constats majeurs de Foster Wallace, à savoir que l'ironie est partie intégrante du monde cathodique américain. L'ironie au sens rhétorique du terme, c'est-à-dire une figure qui cherche à présenter comme vraie une proposition manifestement fausse afin de faire ressortir son absurdité. Je cite, « La fiction et l'image résultent, au fond, d'une évolution supplémentaire des rapports entre la littérature et la culture populaire qui se sont épanouis dans les 60s chez les postmodernistes. Si les pères de l'Église postmoderne trouvaient dans l'imagier pop une source valide de référents et de symboles, ici, dans les années 70 et au début des années 80, ce recours aux constituants de la culture de masse est passé d'usage en mention, certains auteurs d'avant-garde ayant alors commencé à traiter la pop et la télévision comme des sujets fertiles, la nouvelle fiction de l'image utilise les mythes pop éphémères reçus et partage comme un monde dans lequel bâtir les fictions sur les personnages réels, bien que médiatisés par la culture populaire. » Nous reviendrons. La culture du divertissement est pour Foster Wallace, lecteur, critique et analyste des œuvres de Baudrillard, Jameson et Lyotard, l'essence même de la postmodernité. Un constat qui rejoint celui de Linda Ochim et de Jonathan Franzen en quelque sorte. Autrement dit, des œuvres telles que celles de Thomas Pynchon ou Don DeLillo sont certes postmodernes en ce qu'ils reflètent narrativement et stylistiquement les enjeux sociaux de cette culture fragmentaire, réflexive, post-industrielle et de divertissement, mais ils sont d'abord et avant tout une vraie littérature. Par un hasard qui s'explique, c'est aussi ce que Frederick Jameson annonçait dans The Postmodernism of the, culture, of the Cultural Logic of Late Capitalism. L'éthique pop, j'ai traduit, formulée par la télé de cette culture de masse a joué un bon tour à l'esthétique postmoderne qui voulait à l'origine récupérer et rédimer la pop. La télévision a complètement renversé la vieille dynamique de la référence et de la rédemption. Désormais, c'est la télévision qui prend les éléments du postmoderne. L'involution, l'absurde, la lassitude sardonique, l'iconoclasme et la rébellion pour se plier à des fins spectatorielles et consommatrices. Mais ce que Jameson avait dit semble être perdu dans la littérature théorique de la postmodernité, car il y a une littérature littéralement théorique alentour du terme de postmodernité. Accusé de nostalgie et de manque de nuances, Jameson, dans une entrevue accordée à la revue Steam, je crois que c'est Simon qui en a parlé dans un texte sur Salon Double de mémoire, Foster Wallace affirme sans détour avoir voulu écrire à propos de ce qu'il y a plus triste sur l'Amérique contemporaine, rejoignant en ce sens le constat de Jameson, etc., sur la culture de masse. I wanted to do something sad. I think it's a very, very sad time in America, and it has something to do with entertainment. It's not TV's fault, it's not Hollywood's fault, it's not Net's fault, it's our fault. We are choosing this. Ainsi, le sujet contemporain apprécie l'art divertissant, dit Foster Wallace, parce que les médias soutiennent les œuvres faites uniquement de plaisir et lui permettent, en lui procurant une expérience esthétique heureuse, d'oublier tout ce que sa vie a de triste, comme je pense que je devrais arriver à un 10 minutes dans pas long. Ok, ben j'ai presque fini. Comme l'hypothèse qui le résume dans l'ère du vide, ce qui est assez intéressant, parce qu'il va revenir lui sur la notion d'hyper-réalisme puis de hyper-modernité et machin, mais c'est cela la société postmoderne, non l'au-delà de la consommation, mais son apothéose, son extension jusque dans la sphère privée, jusque dans l'image et le devenir de l'ego, appelé à connaître le destin, l'obsolence accélérée. Consommation de sa propre existence au travers des médias démultipliés, des loisirs, des techniques relationnelles, le progrès de personnalisation génère le vide en technicolor. Mais nous pourrions discuter ici des termes de société postmoderne, considérant que plus de 30%, et c'est une statistique très conservatrice, des habitants du continent américain vivent selon les valeurs et les traditions d'un modernisme suant à grande pompe le rêve américain. Je préfère revenir aux termes de conditions, on aura le temps de discuter par la suite. Pour clore cette brève intervention et ouvrir un débat, je souhaiterais souligner simplement, peut-être très naïvement, que ce que dit Foster Wallace est donc la réaffirmation du constat premier, soit que l'âge de l'information bouleverse nos fictions. C'est simple, mais c'est ça. et l'âge du divertissement les pervertit. Parfois pour le mieux, souvent pour la facilité, donc pour un amenuisement culturel au sens large. À cette heure, que fait-on de la littérature avec toutes les post-terminologies? Plaquons-nous des concepts par-dessus concepts pour éviter de parler de l'essence des textes? Et que fait-on des petits de la bête? Le postmodernisme, le post-postmodernisme, la méta-métafiction, le métamodernisme, l'hypermodernisme, l'hyper-réalité et le postmodernisme chrétien, car il existe, soit dit en passant. Heidegger et saint Thomas d'Aquin contre Batman et Nietzsche. Enfin, je crois que la production littéraire américaine, au-delà du genre genré et de la pop, gravite autour de deux grands spectres. Je parle de littérature, non pas de Tom Clancy, mais bon, vraiment de Foster Wallace, Friendzone et tout ce qu'on peut appeler en dehors des spectres genrés, qui n'est pas ni de la fantasy, de la science-fiction, ni de la... Chandler étant de la littérature, on s'entend, c'est pas du roman noir, mais c'est d'abord la littérature ensuite. Juste pour faire une bonne explication, je sais qu'on peut me rentrer dedans facilement là-dedans. Deux spectres. D'une part, il aurait toute cette palette, c'est intéressant pour toi, Gagné. C'est toute cette palette d'écrivains qui puiseraient dans les enjeux postmodernes leur créativité, et leur discours sur la crise du sujet et de la société. Et d'une autre part, il aurait ce que nous pouvons nommer, avec des énormes guillemets, une littérature réaliste, qui serait le miroir de Flaubert, placé à 40 000 à l'heure sur les autoroutes du 21e siècle. Je crois aussi, et je suis bien croyant aujourd'hui, mais que ce que beaucoup prennent pour une littérature post-postmoderne s'avère être au fond le mélange de ces deux pendants. Prenons l'exemple de Foster Wallace, ou encore même de Don DeLillo, qui utilise effectivement l'artillerie esthétique postmoderne, mais afin de représenter, montrer, discuter des émotions, des valeurs, des communautés, des tabous et des angoisses qui sont intrinsèques à l'humain, plus qu'à une quelconque théorie. Voilà. T'en ressembles à ça.
Merci.